Radio Prague, les informations.
Le président du ministère public supérieur de Prague, Vlastimil Rampula, doit démissionner. Milan Kundera s'est vu décerner le prix de la Bibliothèque nationale de France. Appel à la création d'un poste de chargé gouvernemental pour la minorité rome. Le président du ministère public supérieur de Prague, Vlastimil Rampula, sera obligé de démissionner. La Cour administrative suprême a donné raison au ministre de la Justice, Jiří Pospíšil, et a invalidé la décision de la Cour municipale de Prague prise en février dernier, qui avait confirmé Vlastimil Rampula dans sa fonction. Vlastimil Rampula avait été relevé de ses fonctions par le ministre pour des fautes graves dans le travail du ministère public supérieur de Prague. Le célèbre écrivain tchèque installé en France, Milan Kundera, a reçu lundi le 4e prix de la Bibliothèque nationale de France, doté de 10 000 euros. Le prix récompense chaque année un auteur vivant de langue française pour l'ensemble de son œuvre, quelle que soit sa discipline, ayant publié dans les 3 années précédentes. Présidé par Bruno Racine, le jury avait précédemment attribué ce prestigieux prix à Philippe Solers, Pierre Guiotat et Patrick Modiano. L'Association nationale des Roms de République tchèque appelle le Premier ministre Petr Nečas à créer un poste de chargé gouvernemental pour la minorité rome. Ce dernier sera responsable de la mise en place de mesures visant à améliorer les conditions de vie des Roms ainsi que leur cohabitation avec la société majoritaire. Dans une interview publiée dans l'édition de ce lundi du journal allemand Süddeutsche Zeitung, le ministre tchèque des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg a rejeté la critique formulée par les autorités allemandes et plus particulièrement bavaroises à l'égard de l'achèvement de la centrale nucléaire tchèque de Temelin. Le chef de la diplomatie a notamment souligné le droit de la République tchèque de décider de sa conception énergétique en rappelant que Prague, à son tour, respecte la décision de Berlin de remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables. Quelques 3 000 spécialistes participent au congrès de la Société européenne de neurologie qui se tient jusqu'au 12 juin prochain au centre des congrès à Prague. Ils se penchent notamment sur les nouvelles méthodes de traitement de la maladie Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose en plaques ou encore des troubles du sommeil. Athlétisme, la lanceuse de javelot Barbora Špotáková, championne olympique en titre, a remporté lundi à Prague son concours respectif au mémorial Josef Odložil avec un lancer à 65,88 mètres. Samedi dernier, lors de la Ligue de Diamants à New York, Špotáková avait réalisé la meilleure performance de l'année avec un jet à 68,73 mètres. Météo. Mardi, jour de la fête des Antoniens, Antoinette, un temps couvert et orageux règne sur la majorité du territoire tchèque. Des pluies abondantes sont prévues notamment dans le sud et dans l'est du pays. Le soleil fera quelques apparitions dans l'extrême nord de la République tchèque. Les températures maximales sont comprises entre 19 et 23 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter qui cède maintenant le micro à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Václav Richter pour son bulletin d'information. Des maisons de naissance vont être mises en place à côté des hôpitaux, une solution de compromis pour les femmes qui décident d'accoucher dans un environnement plus intime et moins médicalisé, mais qui ne règle pas la question des accouchements à domicile. Tourisme ensuite avec un petit détour dans le quartier de Malastrana à Prague où se trouve un mur un peu particulier baptisé au nom de John Lennon. Bonne écoute de ce programme. Accoucher à domicile ou à l'hôpital, le débat agite depuis quelques années la société tchèque. Lundi, une commission du ministère de la Santé a choisi une solution de compromis, des maisons de naissance attenantes aux hôpitaux. En République tchèque, les femmes peuvent prévoir d'accoucher hors milieu hospitalier, mais elles ne peuvent alors bénéficier d'une aide qu'en dernier recours lors de complications. D'un autre côté, les sages-femmes libérales qui pratiquent les accouchements à domicile n'obtiennent pas d'autorisation de travailler et se retrouvent ainsi hors la loi. Lundi, les représentants du ministère de la Santé, de l'Assurance Maladie et des sages-femmes sont tombés d'accord. Des maisons de naissance devraient être créées à côté des hôpitaux. Mais ces discussions ont été boycottées par les représentants du monde médical. Vladimír Dvořák, président de la Société tchèque de gynécologie et d'obstétrique.
Les arguments de la partie adverse lors d'un premier tour de discussion nous ont convaincus du fait qu'il faudrait mieux que nous ne participions pas à ce nouveau groupe de travail.
Pour Aleš Rostočil, député et président de la commission mise en place par le ministère de la Santé, malgré l'absence des médecins, le débat sur cette question épineuse a clairement progressé vers une prise en charge plus complexe des femmes enceintes.
En effet, nous avons avancé, nous avons pu discuter de ce qui nous rapproche, de ce qui ne nous pose pas de problème à aucune des deux parties. Nous avons enfin évoqué les problèmes qu'il faudra régler ultérieurement. Nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il faut améliorer l'aspect psychologique de la médecine obstétrique. Il faut plus d'empathie dans le rapport aux femmes qui vont accoucher et tendre vers un accouchement selon leurs désirs. Cela ne signifie pas pour autant accoucher à la maison. D'ailleurs, ce sujet n'a pas été évoqué. À l'heure actuelle, une femme a le droit d'accoucher à un hôpital, mais on ne lui interdit pas d'accoucher chez elle. La question reste, qui sera à leur côté? Or, la législation n'encadre pas ce problème et pour l'heure, nous avons décidé de ne pas traiter de cette question.
La question reste donc entière en ce qui concerne les femmes qui continuent de vouloir accoucher chez elles. En aidant une femme à accoucher à domicile, les sages-femmes risquent de se voir infliger une forte amende pouvant aller jusqu'à 1 million de couronnes, soit environ 39 000 euros. Tel est en tout cas le fond d'une nouvelle réglementation en vigueur depuis le mois d'avril. Sans parler des cas où l'accouchement connaît des complications. En cas de problèmes graves, elles peuvent être poursuivies en justice. Ce qui est d'ailleurs arrivé à Ivana Koenigsmarkova, condamnée en 2011 à 2 ans avec sursis. Un procès qui a fait ressurgir la question dans le débat public. Un flou juridique persistant que dénonce Marie Vnoučková, vice-présidente de l'Union des sages-femmes.
La réglementation actuelle reste très peu claire. Et surtout, aucune sage-femme ne peut obtenir l'autorisation d'exercer si l'on regarde attentivement cette réglementation.
En attendant donc, les maisons de naissance décidées par la commission devraient être une structure intermédiaire, donnant aux femmes la possibilité d'accoucher dans l'intimité, mais à proximité de l'hôpital. Leur mise en place en République tchèque pourrait être finalisée pendant l'été. Tout touriste qui se respecte ne peut manquer le quartier de Malastrana à Prague. Là, juste en face de l'ambassade de France, se trouve un mur qui clôt le jardin appartenant à l'ordre de Malte. Ce mur est assez particulier car il porte le nom du célèbre musicien et compositeur britannique John Lennon. Et pour cause, son histoire est liée à cette grande figure des Beatles, une histoire dont témoignent tous les dessins, inscriptions et graffitis qui le recouvrent. Leur signification est dévoilée par František Šimunek, guide de l'agence Avant-Garde Prague, qui s'est confié au micro d'Olga Stepanenko.
Tout le monde connaît le musicien, compositeur, guitariste et écrivain britannique John Lennon. Membre des Beatles dans les années 1960-70, il a créé ce groupe avec Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Mais est une figure de proue du mouvement Peace and Love. Engagé dans la lutte pour la paix, il s'oppose notamment à la guerre du Vietnam, des prises de position qui lui ont valu le mécontentement du pouvoir politique. John Lennon n'a jamais mis le pied à Prague, mais il était à l'époque un symbole de liberté et de paix pour les étudiants tchèques, muselés par le régime communiste et la période de normalisation de l'après-1968. Après le 8 décembre 1980, jour de son assassinat, apparaît un premier dessin sur ce mur. Un dessin réalisé en l'honneur de Lennon, comme nous l'explique František Šimunek.
Ça, c'est le reste de cette petite fontaine qui, maintenant, n'était pas aménagée par le portrait de John Lennon. C'est blanc, mais la fontaine est présente comme le John Lennon. Voilà, avec leur, ça se ressemble visiblement avec leur chevelure. Voilà. Alors maintenant, cela n'abrite plus le portrait de John Lennon, mais bon... d'origine, il y a quelqu'un qui a dessiné la petite figure symbolique, petit visage symbolique de John Lennon ici. Et ça, c'est devenu le lieu de culte, voilà, avec les bougies. Alors, s'il y a le tremblement de terre politique, alors on fête souvent par les bougies, voilà. On commence à mettre les bougies comme partout au monde, voilà.
Ce mur est donc devenu en seulement quelques jours le support sur lequel les étudiants de Prague ont commencé à exprimer leur volonté de paix, leur révolte contre la guerre et la dictature. Il devient un lieu de protestation jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. D'une vingtaine de mètres de long, le mur Jean Lennon est devenu un symbole de paix et de liberté pour beaucoup de gens. Évidemment, ces inscriptions ne pouvaient qu'irriter le pouvoir communiste qui faisait effacer toutes les inscriptions dissidentes ou carrément faisait repeindre toute la surface du mur. Ni la musique ni les chansons de John Lennon n'étaient les bienvenus dans ce pays dirigé par le communiste Gustav Husák. František Šimunek.
Alors au début c'est finalement le mur tout à fait ordinaire, c'est le mur des jardins des chevaliers de Malte, voilà. Quand j'étais enfant ou jusqu'à années 80, c'est plutôt le mur qui n'a pas fortement le sens politique. Mais pour les communistes, tout présente les dangers politiques. Même John Lennon présente les dangers politiques. Alors, ce n'est pas fortement interdit, mais au moins, c'est mal vu. Mais sous le régime communiste, naturellement, on n'a pas les graffitis comme ça, si agressifs ou quoi. Ce sont expressions seulement petites.
Mais les manœuvres du pouvoir n'empêchaient pas les gens d'écrire encore et encore, et le mur a gardé tout son sens. Ce mur représente donc bien plus que la mémoire de John Lennon. Il incarne aussi la liberté d'expression, l'espoir et les rêves. Si auparavant le mur était rempli de graffitis contre le pouvoir communiste, aujourd'hui les mots d'amour et de paix sont venus les remplacer.
Alors au début ça commençait comme l'expression poétique, après politique, maintenant c'est plutôt la curiosité pour la touriste.
Finalement, on peut se demander si cette tradition perdurera à l'avenir. En tout cas, si la mémoire de John Lennon venait à s'effacer, dans 50 ou 60 ans, gageons que son message, lui, restera tout aussi vivant.
Deuxième partie aujourd'hui de notre panorama consacré à la crise de la presse écrite face à l'arrivée de nouveaux médias et notamment d'Internet. Barbara Osvaldova est responsable du département journalisme à la faculté des sciences humaines de l'université Charles à Prague. Elle a été interrogée par Pierre Maignan dans ce panorama.
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 Lors de la première partie de l'entretien, Barbara Osvaldova nous dressait un portrait de la presse tchèque contemporaine et nous expliquait les évolutions des contenus et des pratiques journalistiques liées pour beaucoup à l'apparition d'Internet. Dans cette seconde partie, elle revient sur le rôle de la presse tchèque en tant que relais d'information et d'opinion et s'interroge sur la porosité entre les médias dits sérieux et ceux dont la ligne éditoriale est clairement tournée vers le racolage et le sensationnalisme. C'est pourquoi il est important, selon elle, que le public puisse être éduqué aux médias afin de pouvoir les utiliser en connaissance de cause. La question de l'impact des médias sur l'opinion alimente les discussions entre sociologues, journalistes et autres spécialistes du sujet. La télévision, la presse, la radio ou encore Internet définissent-ils les sujets légitimes, ceux qui peuvent et doivent être débattus, ou se font-ils tout simplement le relais des opinions qui seraient présentes dans la société ? Barbara Osvaldova considère qu'il s'agit d'un mécanisme à double sens, les médias influençant autant l'opinion publique qu'ils sont influencés par elle.
Bien sûr, il y a cette possibilité d'établir l'agenda médiatique, de mettre en avant et de développer des thèmes qui vont ensuite être discutés au sein de la société. C'est un premier point. Il faut dire que cela peut aussi se produire dans le sens inverse. Quelque chose ne va pas dans la société et les journalistes doivent alors réagir à ce problème. C'est un mécanisme à double sens. Mais pour avoir observé nos grands médias, je dois dire que cela dépend des journalistes en service à un moment donné. Parce que si un journaliste a une opinion différente de celui qui était à son poste le jour précédent, il doit adapter ses commentaires et son actualité en conséquence. C'est ce qu'on appelle en principe un gatekeeper, c'est-à-dire le gardien des portes, celui qui laisse passer les informations et en bloque d'autres. Ainsi, quelqu'un sélectionnera les nouvelles en fonction de ses intérêts et opinions. On voit donc des journaux qui écrivent un jour d'une d'une certaine façon et le lendemain d'une façon totalement différente. Ils n'ont pas eu une orientation bien définie.
Tak a druhý den píše o něčem úplně jinak. Nemají úplně jednoznačnou linii.
Cependant, les sujets en une ne dépendent pas de la personnalité des journalistes. Les médias seraient dans l'ensemble relativement suiveurs, influencés par leur environnement médiatique. Ils se copient entre eux pour sélectionner les informations qu'ils jugent dignes d'être publiées. Si un média développe un certain sujet, les autres auront ainsi tendance à en parler également, au lieu de s'en démarquer, afin de ne pas être écartés de la compétition. Le sujet acquiert une certaine légitimité puisque tout le monde en parle. Barbara Osvaldova considère que ces choix conduisent les journaux à mettre en avant des informations secondaires.
Il y a 3 mois, il y a eu cet accident d'un autobus belge. Quand on observait les éditions des journaux à ce moment-là, on constatait que toute la rédaction plaçait ce fait divers en première page. Ce qui est intéressant, c'est que le 15 mars, le lendemain de cet accident, c'est l'anniversaire d'un événement survenu en 1938, puisque les nazis envahissaient la Tchécoslovaquie. Et ces journaux n'avaient aucune information à ce sujet, alors qu'ils parlaient tous de l'accident. C'est évidemment tragique. Pourtant, selon moi, certaines nouvelles ne sont pas aussi essentielles que d'autres. Je considère que certaines informations sont plus importantes.
Selon Barbara Osvaldova, certaines informations sont ainsi occultées, volontairement ou non, alors que ce sont précisément celles qui devraient être développées.
Cela m'énerve parfois de constater que les informations sélectionnées ne sont pas les plus importantes pour la société. Personnellement, je pense que les nouvelles internationales sont essentielles car elles influencent ce qui va se passer chez nous, bien que cela puisse être l'inverse également. Parfois, vous apprenez par exemple qu'en République tchèque, les œufs sont plus chers et vous allez avoir des pages et des pages à ce sujet. Cette information va en cacher d'autres, par exemple le début d'une guerre. Il m'apparaît bien plus important d'informer sur ce danger potentiel que sur le prix des œufs.
Il existe en République tchèque une presse à scandale relativement prospère qui réalise ses ventes grâce à ce genre d'actualité. Le prix des œufs, les dernières frasques des vedettes de la télévision ou encore les histoires de crimes sordides. Les deux principaux titres de cette presse à sensation que l'on nomme ici les boulevards sont Haha et Blesk. Ce dernier est le quotidien le plus lu de République tchèque. Selon l'enquête Mediaprojekt de l'année 2010, il pouvait compter près de 1 600 000 lecteurs chaque jour. Il faut de plus souligner que Haha et Blesk appartiennent tous deux à l'un des plus grands groupes de presse du pays, la société Ringier Axel Springer CZ. Or, la qualité de certains médias tchèques souffrirait de la perméabilité entre les médias traditionnels et les médias people.
C'est vrai qu'il est simple de distinguer les prétendus journaux boulevards des journaux dits sérieux, mais je ne suis pas sûre à 100% que les éléments qui concourent à faire un boulevard ne s'introduisent pas dans la conception de ces journaux sérieux. Et on observe parfois le processus inverse. Étant donné que la République tchèque dispose d'un marché de la presse limité, des journalistes issus des chaînes de télévision publiques ou du service public se retrouvent sur la chaîne privée Nova et inversement. Ainsi, vous découvrez parfois que des journalistes que vous seriez tenté de considérer comme issus de la presse boulevard ont atterri sur une chaîne de service public et ils ne devraient pas s'y trouver.
Depuis octobre 2011, Peter Dvořák est le nouveau directeur général de la télévision publique tchèque. Il occupait auparavant la même fonction pour Nova, chaîne de télévision qu'il a ouverte à de nombreux programmes people, à la télé-réalité et à des journaux télévisés faisant la part belle au sensationnalisme. Les événements récents qui se sont déroulés dans la petite ville de Břeclav, au sud de la Moravie, font réfléchir à propos de cette tendance à privilégier le spectacle et l'émotion au détriment de l'information. Au mois d'avril, un adolescent de 15 ans déclare avoir été agressé par 3 Roms qui lui demandaient une cigarette. Les médias s'emparent de cette histoire et en font leur gros titre. Des manifestations anti-Roms se déroulent dans la ville, des contre-manifestations, des artistes s'en mêlent, tels que les chanteurs Jaromír Nohavica ou Michal David, prenant fait et cause pour le garçon. Finalement, un mois plus tard, ce dernier avoue avoir menti. Il s'est blessé tout seul et a eu peur de la réaction de sa mère. Les médias ne sont évidemment pas responsables du mensonge de ce mythomane. Il n'en reste pas moins qu'ils ont contribué à amplifier ce qui n'était ni plus ni moins qu'un fait divers, mais dont la dimension anti-Rome allait forcément trouver un écho. Récemment, la sociologue Yejina Chiklova notait à ce sujet que la presse avait une tendance lourde à rapporter les faits divers impliquant des Roms, alors qu'une manifestation culturelle comme la fête internationale des Roms, qui s'est déroulée à la fin du mois de mai, n'a pas fait l'objet d'une seule ligne dans les grands journaux nationaux. Pour Balbora Osvaldova, ce biais de l'information, cet agenda médiatique qui s'impose, rend nécessaire une éducation de la population à l'usage et à la compréhension des médias.
Nous avons des cours de sociologie des médias car nous pensons que le public doit être informé, éduqué et préparé à utiliser les médias parce que nous nous trouvons désormais dans une situation assez complexe. Avant les années 1990, on ne pouvait pas croire ce que racontaient les différents médias. Après la fin du régime communiste, les gens ont commencé à leur faire confiance sans limite. Il y a donc aujourd'hui une nécessité. Il faut comprendre que tout ce qui est écrit dans un journal n'est pas forcément la vérité. Ainsi, il faut préparer les gens à ne pas prendre pour argent comptant un éditorial qui correspond seulement à l'opinion de celui qui l'écrit. Il existe d'autres opinions. Aussi, quand il y a des actualités, celles-ci ont été sélectionnées selon des critères dont ne disposent pas les lecteurs, les auditeurs ou les spectateurs. C'est ce qu'il faut comprendre afin de ne pas se dire « je l'ai vu à la télévision, cela doit être vrai ».
Pour comprendre l'actualité et la façon dont elle est faite, il faudrait également multiplier les points de vue et diversifier ses sources d'informations. Mais les gens privilégient les médias avec lesquels ils pensent partager une certaine vision du monde.
En ce qui concerne les nouvelles, les choses sont claires. Il faut réagir en fonction de ce qui se passe dans la société. Mais les journalistes d'opinion, les pages d'opinion peuvent être différentes. J'ai eu connaissance d'une expérience en France après 1945. Les nouvelles de plusieurs journaux ont été mélangées. Les lecteurs n'en ont pas voulu car ils désiraient connaître l'orientation politique de la presse qu'ils lisent. Je vois bien personnellement que je lis plus volontiers les journaux qui me conviennent, qui ont des points de vue avec lesquels je suis d'accord, que les journaux qui m'agacent. C'est pourtant une erreur. On devrait lire différentes choses, le plus de choses possible. Mais pour être en paix avec soi-même, il est certainement mieux de lire les choses qui nous sont compréhensibles.
Voilà, c'est la fin de notre émission en français sur Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, le www.radio.cz/fr, et ce, sous forme d'articles, en podcast, mais également en streaming. Et puis évidemment, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en nous écrivant. Et puis, vous pouvez également consulter notre site internet, puisque un concours est actuellement en cours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Bon vent, ahoy.